Frères et sœurs, chers amis, je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Ainsi le Seigneur annonçait-il dans sa première alliance que Moïse aurait en quelque sorte des successeurs. Et il y en eut, je vous en donne un, puis vous en donnez quelques autres. Hein. Le premier, ça va être Nathan. Ensuite, celui qui a donné l'onction à David, il est plus connu encore. C'est un prénom de garçon qui se donne couramment. Shemuel, Samuel, et puis le grand Isaïe, et encore, prénom de garçon qui se donne aussi, Jérémie. Et on va aller jusqu'au dernier qui fait la césure avec la nouvelle alliance, hein, qui est bien sûr Jean le Baptiste. Voilà, on y est, bravo, presque 20 sur 20. Mais n'oubliez pas aussi que le même Seigneur Dieu dira ailleurs à Moïse « Ah, si mon peuple tout entier était prophète !» Le Seigneur ne voulait donc pas que prophète du Seigneur soit un privilège réservé à quelques-uns, ou pire encore, que quelques-uns se réserveraient, comme ça s'est trouvé quand même dans l'Ancienne Alliance parfois, comme un métier, qui d'ailleurs était dans ce cas-là de père en fils, un métier au-dessus des autres. De fait, nous qui sommes, vous serez d'accord avec moi, je pense, les hommes et les femmes, les garçons et les filles de la nouvelle alliance définitive, en Jésus et par Jésus, n'oublions jamais ceci. Le baptême consacre, je dirais quel que soit son âge d'ailleurs, mystérieusement d'ailleurs aussi, comme un don de Dieu, le baptême consacre tout nouveau fils et fille de Dieu dans la triple dignité sacerdotale, prophétique, royale. Et cette dignité est une mission concrète donnée, alors peu à peu, à chacun par le Seigneur, à tous et à chacun. Et pour nous en tenir ici à la mission prophétique, qu'est-ce qu'elle signifie ? Tout simplement que le Seigneur veut inspirer à ses enfants, petits et grands, le message de l'Évangile. Il ne demande qu'à leur inspirer les mots de la foi qui habitent leur cœur, nos cœurs. Elle vient de nous le dire très clairement. « Je mettrai dans sa bouche mes paroles. » Je nous invite donc, car je m'inclus bien sûr parmi vous, à appeler l'Esprit-Saint sur nous tous, sur chacun et entre nous, l'appeler de toute notre foi, afin que nous soyons bien réceptifs à ce qu'il ne demande qu'à mettre dans notre bouche, dans nos actes aussi, pour dire sa louange. Mais pour dire aussi la parole de réconfort, la parole d'encouragement, la parole de vérité à offrir à notre prochain. Être prophète chrétien, aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos relations multiples, ce n'est bien entendu pas prédire l'avenir, comme beaucoup s'en font un métier qui rapporte beaucoup, mais à oser dire le présent de l'amour efficace du Christ. Et voilà notamment qui manifeste que nous sommes attachés au Seigneur sans partage. La formule de saint Paul que nous avons entendue, elle vient au terme d'un appel qui a de quoi, de prime abord, surprendre pas mal, voire même choquer. Pourquoi cette nette préférence pour le célibat par rapport au mariage ? Et surtout pour le motif suivant : celui qui n'est pas marié cherche comment plaire au Seigneur, celui qui est marié cherche comment plaire à sa femme. Attention, Paul devance une accusation. Il ne veut pas ici tendre un piège à qui que ce soit, comme si l'un des deux états de vie était le seul parfait aux yeux de Dieu. En effet, Paul ici pense, et il les évoque, des époux, et ici il évoque des époux chrétiens tous les deux, et sincèrement chrétiens. Il redoute pour eux ceci, qu'ils se trouvent divisés, écartelés entre plaire à son conjoint et plaire au Seigneur. Pourtant, notez-le bien, un peu plus loin, moi je ne peux que vous inviter quand même à la maison de lire un petit peu ce qui est avant le passage et un peu après, parce que ce sont des ensembles quand même. Très peu de temps, quelques versets plus loin, Paul dira « Ce n'est pas du tout un péché que de se marier ». J'espère que les époux sont rassurés, donc voilà. Ou les fiancés, voilà. Non. La question, simplement, c'est de nous demander pourquoi, quand même, dit-il, ce que nous entendons aujourd'hui. Eh bien, il y a une certaine explication qui est tout à fait importante à ces précédents appels préférentiels au célibat et qui tient au contexte dans lequel Paul écrit. Il est persuadé que la venue du Christ dans sa gloire est imminente. Peut-être une affaire de semaines, de mois, de quelques années, c'est ainsi, hein. Il en est persuadé. Et de ce fait, il en appelle à un accueil le plus total, radical, possible à cette venue. Donc, en quelque sorte, toutes affaires cessantes. Une chose est claire, cette motivation ne peut plus être la première. Mais attention, non pas parce que, à force de ne rien voir arriver, l'Église n'attendrait plus que très très vaguement et très loin dans le temps la venue glorieuse et finale de Jésus. Ça, je vous défie de voir un texte de pape qui dise « on peut encore attendre, il y a de la marge hein. ». Non, pas du tout, jamais, jamais. Mais surtout parce que le plus important, et c'est ce qu'il faut retirer des paroles de Paul hein, pour aujourd'hui, hein, le plus important est que, quel que soit notre état de vie, notre condition sociale, nos ressources, nos relations, peu importe, nous vivions tout à partir de l'amour de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que nous devons comprendre ce que nous entendions saint Paul nous dire plus haut, vous voyez verset plus haut, c'est-à-dire dimanche dernier, « Il passe ce monde tel que nous le voyons. » Il passe ce monde tel que nous le voyons. Et pour reprendre une image forte de Jésus, soyons des veilleurs du Seigneur. Soyons des veilleurs du jour du Seigneur, de son jour glorieux, de sa venue. Ainsi pouvons-nous en venir au cœur de la parole de Dieu de ce dimanche, qui est bien entendu l'Évangile. Le récit de saint Marc, et ça c'est un côté que j'aime bien chez saint Marc, c'est que saint Marc ne fait pas dans la dentelle. Jésus et ses disciples, à peine entrés dans la ville de Capharnaüm, se rendent à la synagogue, qui est, vous le savez, le lieu de réunion hebdomadaire de la communauté juive locale. Et aussitôt, Jésus enseigne. Et ce qu'il dit, il le dit avec autorité, fermement, appelant un chat un chat. Au point, rapporte l'évangéliste, qu'on était frappé par son enseignement. Frappé, la traduction est bien faible. J'ai vérifié, je connaissais, mais je suis allé bien sûr au texte grec, et la traduction littérale du texte du verbe grec, c'est « on était épouvanté ». On va dire pourquoi était épouvanté ? Tout simplement parce que des gens se disaient, mais les scribes, ils parlent comme ça, ils commentent l'écriture les uns les autres, et lui, vous le savez bien, il va dire parfois, Jésus, vous avez entendu, c'est-à-dire vous avez lu ceci, eh bien moi je vous dis. Et beaucoup d'auditeurs se disaient, ça va nous retomber dessus cette affaire, on a écouté ce type qui ose dire des choses que les autorités n'approuvent pas. Alors nous ne sommes plus dans cette situation-là, il ne faut surtout pas être épouvanté par la parole de Jésus, mais pour parfois accepter d'être un peu secoué quand même par les paroles qu'il dit. Secoué ne veut pas dire violenté, hein. Un peu secoué. Au nom de qui Jésus parle-t-il ? Oui, ce qu'il dit là, ce sont des paroles de prophète, à coup sûr. Hein. Un prophète qui engage sa vie, hein, et même qui risque sa vie, qui sait que ça peut se terminer très mal sur le plan humain. Mais une parole de vrai prophète, une parole de celui qui affronte, non pas son auditoire, non pas les scribes ou les pharisiens, mais qui affronte l'ennemi, avec un E majuscule, car il est fort de sa foi en Dieu son Père. Et la preuve, nous dit Marc, c'est que l'ennemi ne s'y trompe pas. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Car Satan sait très bien qui est Jésus, mais il ne l'accepte pas. Avec la même autorité, Jésus réplique « Tais-toi, sors de cet homme !» Et l'ennemi bat en retraite. Il abandonne sa proie. Un homme retrouve ses esprits, sa liberté, sa dignité. C'est une petite forme anticipée de résurrection. C'est pourquoi l'évangéliste Marc est très précieux lui aussi, pas moins que les trois autres. En plus, son évangile est plus court. Commode, hein ? Bien sûr, des scènes comme celle-là que nous venons d'entendre, fréquentes dans le témoignage de saint Marc, ont de quoi, je disais, un peu nous secouer, nous déconcerter. Mais leur intérêt essentiel est de témoigner que Jésus est vraiment plus fort que Satan et ses troupes. Il est ultimement vainqueur de l'ennemi, du péché et de la mort. Eh bien, j'aime à m'imaginer qu'une force analogue habitait le cœur de saint Julien, de saint Pavas, de saint Turibe et de manière un petit peu plus lointaine quand même, de saint Pavin, dont nous savons plus de choses que saint Julien. J'espère que vous connaissez la vie de saint Pavin, sinon ben, je m'y mettrai un jour, hein. Voilà. Dont le tombeau se trouve, présumé en tout cas, se trouve ici. Voilà, je pense que c'est la même force qui habitait ses compagnons. Ils furent sans doute des prophètes résolus, des messagers convaincus de l'Évangile. Alors attention, hein, si leurs méthodes radicales ne sont plus du tout de saison, à savoir abattre les temples païens, scier les troncs des arbres sacrés, c'est ce que faisait saint Martin aussi, hein, l'énergie de leur foi, en revanche, la charité qu'ils ont semée, et en témoignent des récits de miracles, y compris de délivrance de possédés, peuvent nous inspirer utilement. Alors, accueillons l'Esprit Saint qui souffle à toute époque. Il continue de construire l'Église comme le corps du Christ, de jour en jour, jusqu'au dernier. Amen.